Radio-Télévision Suisse.
RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui de la philosophie, le grand prix de la francophonie, une découverte belge et une nouvelle escale à Montréal. Spinoza est un miracle contemporain. Le philosophe français Frédéric Lenoir affirme sa passion pour le philosophe du XVIIe siècle dans un essai passionnant qui se lit comme un roman. Bonjour Frédéric Lenoir.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans cette émission.
Merci.
Spinoza est le père de notre modernité politique.
Mais pas uniquement. Il est le père de notre modernité politique puisque un siècle avant Voltaire et Kant, il a parfaitement défini une démocratie laïque fondée sur la liberté de conscience et d'expression. Mais c'est aussi le père de la psychologie des profondeurs qui nous dit bien avant Freud que nous sommes mus par nos pulsions, par nos désirs et nos affects inconscients. C'est le père de l'exégèse historique et critique de la Bible. C'est le père de la sociologie. Donc c'est le Mozart de la pensée.
Vous êtes fan ?
Totalement.
Vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur Spinoza et sur la philosophie passée et contemporaine, car les deux se rejoignent. Vous allez tout comprendre avec nous. Elle est finaliste pour le prix Russell, récompense littéraire belge suprême, qui sera décerné le 7 décembre. Zoé Derlin publie un recueil de nouvelles concis, très intense, mais aussi très sombre. Nous verrons tout à l'heure ce qu'en pensent nos libraires. Et puis nous irons à Montréal célébrer les 75 ans de Michel Tremblay, avec un reportage inédit dans l'intimité d'une séance de signature. Et nous recevrons aussi en plateau l'écrivain guinéen Thierno Monenembo, qui a reçu jeudi le Grand Prix de francophonie de l'Académie française.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme toujours, quatre libraires sont en multiplex avec nous. Marie-Noëlle Blais est libraire à Montréal dans la librairie Raffin. Bonjour Marie-Noëlle.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Dans le froid hivernal qui s'installe déjà. Bonjour Annick Dor.
Bonjour Emmanuel.
Le froid aussi en Belgique, vous êtes libraire en Belgique,
oui.
Libraire à la
Tout
Hulpe,
à
dans la librairie de la Mazrine. Pour représenter la France, c'est Mathieu Colombe. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Vous venez du pays du vent, le Mistral à Aix-en-Provence, dans la librairie Goulard.
Exactement.
Et enfin en Suisse, c'est Dominique Bressou, libraire à Boudry, dans la librairie Une Petite Prose, qui est avec nous. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous ?
Ça va très bien.
Très bien. Vous allez rester bien sûr tous les quatre avec nous tout au long de cette émission. Bonjour Thierno Monenembo.
Bonjour.
Vous avez reçu cette semaine le Grand Prix de la francophonie décerné par l'Académie française. Nous dresserons votre portrait tout à l'heure en votre compagnie, mais on commence toujours cette émission par une histoire personnelle, anecdote que je découvre en même temps que tout le monde. Vous avez donc carte blanche. Que voulez-vous transmettre, Thierno ?
Alors, cela se passe à l'aéroport de Marseille. Je pense que c'était au début des années 2000.
Oui.
J'étais là dans la salle d'embarquement, attendant le début de l'enregistrement. Puis je vois Amadou Kourma, grand écrivain ivoirien, débouler.
À Marseille.
À Marseille, à Marignan.
Oui, Marignan.
Inondé de sueur, il file vers moi. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vas devenir quand je serai mort ? Il avait à la main et mon billet d'avion et mon passeport que j'avais oublié à l'hôtel. À l'hôtel d'Aix-en-Provence.
Ah oui.
Et c'est curieux parce que c'est la dernière fois que je l'ai vu.
Dernière fois.
Et je pense toujours à ça. Qu'est-ce que tu vas devenir quand je serai mort ?
Et alors, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui maintenant avec le recul ?
Oui, il avait raison de le dire. Oui. J'ai
il vous manque
depuis qu'il est parti. Il me manque énormément. En plus, c'est quelqu'un qui me considère un peu comme ses enfants. Mm-hmm. Il nous appelait les fils égarés de l'Afrique. Et Sassine, qui avait beaucoup d'humour, disait non. L'Afrique est beaucoup plus égarée que nous.
Merci pour cette histoire et cette rencontre magnifique. Thierno Monenembo, Grand Prix de la francophonie et dans la librairie francophone cette semaine. On parle donc de Spinoza avec Frédéric Lenoir aujourd'hui. Spinoza avait compris, trois siècles avant Gandhi, que la véritable révolution est intérieure et que c'est en se transformant soi-même qu'on changera le monde. C'est ce que vous écrivez, Frédéric, page 111, tout est là.
Disons que le cœur, je pense, de sa pensée est là, c'est-à-dire de lier la philosophie politique et la philosophie éthique. Alors, il ne le dit pas dans des termes aussi simples, hein, effectivement. Il va nous dire que l'utile propre est ce qui est le plus utile au bien commun. Ça veut dire que ce qui nous rend heureux soi-même, ce qui nous permet de nous épanouir selon notre nature et ce qui nous met dans la joie, c'est ce qui nous permettra d'être le plus utile aux autres.
Ouais.
Et donc, finalement, l'idée centrale qu'on va retrouver dans Spinoza, c'est l'idée qu'il faut se transformer soi-même, il faut faire un travail sur soi, sur ses affects, sur ses émotions, sur ses passions, grâce à la raison, pour essayer de s'améliorer, de vaincre les passions tristes, la peur, la colère, la violence, la jalousie, le ressentiment, qui font qu'on crée toujours de la violence.
Exactement.
Et alors qu'il invente le système démocratique moderne, qui garantit la liberté de conscience et d'expression, il nous dit que ça ne suffira pas. On peut vivre dans les plus belles démocraties, si on est encore mu par nos émotions, eh ben, il y aura toujours de la violence et de l'injustice sur Terre.
Il travaille sur lui-même. Hein. Vous commencez votre livre d'ailleurs en faisant le portrait de Spinoza, philosophe juif d'origine portugaise, né en 1632 à Amsterdam, mort 44 ans plus tard seulement, hein, il décède très jeune. Il se détache très vite de la religion. Dès l'âge de 15 ans, il émet des doutes. Et à 19 ans, il se passionne pour la quête de la vérité et le bonheur fondé sur la raison. C'est ça qui est important chez Spinoza, la raison.
Alors, c'est central et en même temps, ce n'est pas qu'un philosophe de la raison. C'est-à-dire qu'effectivement, pour lui, la raison est l'outil universel, la raison est tout à fait universelle, comme le diront à sa suite les philosophes des Lumières, qui nous permet d'avoir des idées adéquates, c'est-à-dire des idées justes. Mais c'est aussi le philosophe des émotions, c'est le philosophe des affects, puisqu'il nous dit que le désir est l'essence de l'homme. Sauf que pour lui, c'est la raison qui éclaire nos émotions et nos passions et qui nous permet de passer des passions tristes aux passions joyeuses. Et donc la raison, elle est là pour nous éclairer, pour susciter des nouveaux désirs positifs. Autrement dit, si vous avez une addiction, une peur, une angoisse, une émotion négative, vous allez la contrecarrer par une autre émotion et un autre désir positif. C'est qu'une motivation qui peut nous faire évoluer. La raison ne suffit pas.
Alors on peut expliquer son engagement par les drames successifs qu'il vit très jeune. La mort d'une partie de sa famille, comme une malédiction, il perd comme ça, hein, enchaîné
sa mère
son demi-frère, oui, sa mère à 5 ans, son demi-frère ensuite, sa belle-mère, son père, sa sœur. Il a des positions anti-religieuses qui peuvent affaiblir la communauté juive. Alors comme il ne renonce jamais à sa pensée et à l'expression de cette pensée, on va le bannir de la communauté. À l'âge de 23 ans, on le bannit violemment, radicalement, et là aussi, tout s'articule pour lui.
Et oui, parce que cet acte de courage, de fidélité à sa pensée, fait qu'il va être exclu par un RM, c'est-à-dire un acte de bannissement définitif. Il est maudit pour l'éternité. Et surtout, on interdit à tous les autres juifs de lui parler. Donc il perd les quelques membres de sa famille qu'il avait, ne lui parlent plus. Les quelques amis qu'il avait, ne lui parlent plus. Il se retrouve tout seul. Et c'est le début d'une conversion philosophique. Et à ce moment-là, il va consacrer entièrement sa vie à la recherche du bonheur par la philosophie.
Et il va se lâcher, du coup, parce qu'il va critiquer l'arrogance des Hébreux qui se placent au-dessus des autres êtres humains, je cite, il ira très loin en dénonçant leur propre mise à l'écart des autres nations et leur particularisme qui, je cite encore, suscite l'antisémitisme. Alors voilà, ça va assez loin chez Spinoza. Il va critiquer les musulmans aussi. Il dit que la parole est muselée chez les musulmans. Bref,
les
il
chrétiens
dénonce
aussi.
Toutes les religions. Les chrétiens
il
aussi.
Il dit que les chrétiens sont en contradiction permanente avec le message des évangiles, qui ne nous parlent que d'amour et de charité. Ils font l'inverse dans leurs actes. Donc, il est extrêmement critique envers les religions. Il nous dit, au fond, les religions nous enseigne une chose très utile, c'est la pratique de la justice et de la charité. Tout le reste, ce sont des histoires pour enfants, qui sont des mythes, qui sont des contes, qui nous rassurent. Et il nous dit que la religion est fondée sur la superstition, c'est-à-dire sur la crainte. Et il faut dépasser ça.
Et la superstition, vous l'avez dit, parce qu'il dira que c'est parce que la vie est incertaine, faite de haut et de bas, que nous sommes enclins à croire toutes sortes de fables, pour conjurer le sort en quelque sorte. Et alors, rappelez-vous, l'époque, on est aux alentours de 1650. Il va mettre au point une méthode d'interprétation des livres saints. Spinoza va affirmer qu'il faut lire les textes sacrés avec la raison, et donc les resituer dans leur contexte historique, et donc les adapter à notre période contemporaine, 1650, ça, évidemment, ça ne passe pas, mais alors, pas du tout.
Oui, évidemment, il est à la fois condamné par les autorités religieuses de toutes les religions, mis à l'index par l'Église, rejeté par le judaïsme, condamné par toutes les religions, et en même temps condamné par les autorités politiques, puisqu'il y a toujours un blocage à cette époque-là entre religion et politique, et donc il est mis au ban de tout le monde, on tente de l'assassiner, il ne peut pas publier sous son nom, même son éditeur fait croire que ses livres sont publiés dans un autre pays pour ne pas être interdit. Donc il a un courage extraordinaire, Spinoza, mais il a été fidèle jusqu'au bout à toutes ses idées. Et moi, c'est une des choses qui m'émeut le plus. C'est-à-dire cet homme n'a jamais cédé à la peur. Et il a toujours, avec prudence, parce que sa devise c'est caoté, soit prudent, mais jamais il n'a renoncé à une de ses idées. Il était jusqu'au bout, et d'ailleurs son livre majeur, L'éthique, a été publié après sa mort.
Spinoza veut que l'on relativise aussi. Dieu est là, tout autour de nous, à travers la nature et le cosmos. En fait, c'est une croyance qui se place au-dessus des dogmes religieux.
Complètement. C'est-à-dire qu'il nous dit effectivement la religion reste très humaine dans sa manière. Elle fonctionne à travers une dimension essentiellement politique et culturelle, mais il est passionné par la question de Dieu, Spinoza. Dieu est omniprésent dans son œuvre.
Le Christ aussi.
Et le Christ aussi. Bien qu'il ne soit pas chrétien. Et il nous dit Dieu, finalement, c'est la totalité du réel. Visible et invisible. Puisqu'il nous dit les deux attributs de Dieu, ce sont essentiellement la pensée et la matière. Donc, l'esprit et la matière. Et il dit le monde entier est fait d'esprit et de matière. Donc, c'est à la fois visible et invisible. Et nous sommes une parcelle du divin. Donc il définit un divin immanent qui ressemble beaucoup aux spiritualités de l'Inde. Donc Spinoza, là-dessus, il sort du dualisme occidental, il y a un Dieu extérieur au monde qui est pur esprit, qui crée la matière, il nous dit non, Dieu est à la fois esprit et matière. Ouais. Et en même temps, il sort de tous les dualismes, parce qu'il nous sort aussi de l'opposition entre l'âme et le corps. Il nous dit l'âme et le corps, c'est la même chose. C'est vu de deux points de vue différents.
Il faut respecter son corps.
Absolument. Et il y a toujours une unité entre l'âme et le corps.
On va laisser la parole à nos libraires qui ont lu votre essai avec passion, Frédéric Lenoir, en tout cas je l'espère. La France, la Belgique ou la Suisse, on commence par qui ?
Eh ben, ça m'est complètement égal, donc je voulais choisir. Ces trois pays que je connais bien, que j'aime beaucoup, donc je ne voudrais pas avoir l'air d'avoir une préférence.
Vous arrivez de Suisse, là.
On va commencer par la Suisse.
Allez, on va commencer par la Suisse. Dominique Bressou.
Oui, alors pour moi, c'est un des livres les plus remarquables de cette année, si pas le plus remarquable.
Oula, on commence bien.
Bien choisi, là.
Il a bien choisi la Suisse.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'enthousiasme incroyablement communicatif dont vous faites preuve dans vos écrits. Je ne me suis pas ennuyée un seul instant et j'avais l'impression d'entendre vibrer mes petites cellules grises tout au long du livre, au point que quand je l'ai fini, je me suis aperçue que j'aurais dû prendre des notes pour assimiler l'éthique de Spinoza avec joie.
Merci.
Merci Dominique. Les cellules grises de Mathieu Colombe en France s'agite, Mathieu.
Oui, je trouve que c'est une très belle entrée dans la philosophie de Spinoza. Ce petit livre, généreux par sa portée, prouve que l'œuvre d'un des plus grands penseurs occidentaux peut être interprétée sans fin. C'est d'ailleurs un des grands intérêts de cet ouvrage. On peut soit s'y plonger pour découvrir Spinoza dans sa globalité, soit y trouver des aspects de sa pensée spécifiques. Je pense que c'est même un véritable ouvrage d'honnête homme.
Très bien. On va voir du côté de la Belgique si ça se passe de la même façon. Annick Dor, qu'en pensez-vous ?
Oui, mais moi j'ai été impressionnée par le courage intellectuel de Spinoza et par son indépendance d'esprit. Il ne travestit jamais sa pensée, il ne fait aucune concession par rapport à ses convictions. Donc c'est indéniablement quelqu'un d'intègre et de libre. En tout cas, on le lit comme ça en lisant votre essai. Vous parvenez en plus à nous le rendre très accessible en détaillant sa vie, mais aussi ses œuvres. Et donc j'avoue que pour ma part, j'étais vraiment captivée par cette lecture. Merci.
Vous avez captivé nos libraires.
Mais c'est Spinoza qui captive tout le monde. Oui,
enfin,
moi, le premier.
Bien fait.
J'ai essayé. Moi, vous savez, je crois que vous le sentez, je l'aime, Spinoza. Oui. C'est-à-dire, c'est un ami. Voilà. Oui.
Et pourtant, il a des défauts, on va y revenir.
Il a des défauts, mais comme tous mes amis ont des défauts, et moi j'en ai aussi.
Allez-y, poursuivez.
Mais c'est vrai que j'ai de l'amour pour Spinoza, il me touche comme homme, sa vie est exemplaire, c'est un homme qui a mis en cohérence sa pensée et ses axes, ce qui n'est pas facile à faire. Il est très émouvant, et en même temps, je trouve que voilà, c'est un des plus grands penseurs de tous les temps. Donc j'ai écrit ce livre avec enthousiasme, et je suis heureux que cet enthousiasme soit aujourd'hui partagé.
Alors du côté positif, Spinoza incite aussi à ne pas juger l'autre tout de suite. Il dit que pour juger quelqu'un, il faut connaître les causes profondes des actions ou des attitudes. Une colère s'explique aussi bien qu'une tornade, ce sont des phénomènes naturels. Et l'homme est inscrit comme ça dans la nature, complètement, intégralement.
Oui, et il vit selon les mêmes lois de la nature, qui sont les lois universelles de la nature. Et donc il dit qu'il y a toujours une explication causale à tout. Et lorsqu'il y a un tremblement de terre, un tsunami, il y a une explication. Les météorologues vont expliquer, c'est passé telle chose qui a engendré le tremblement de terre, le tsunami. Il dit de la même manière, si un homme est en colère, ou même un homme commet un crime, recherchons l'explication. Il est beaucoup plus important de chercher à comprendre pour essayer de changer les choses ou de les améliorer que de condamner simplement dans l'émotion. C'est-à-dire qu'on peut tous s'indigner, être en colère, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Il nous dit « comprenons les causes ».
Alors ça, on le comprend très facilement. Ce qu'on a du mal à saisir, c'est comment on peut vivre sous l'emprise de la raison.
En fait, Spinoza a cherché à développer la raison tout en ayant beaucoup de sympathie pour les émotions. Simplement, il cherche à développer l'introspection, c'est-à-dire la connaissance de soi, l'observation de soi. Et donc, il a une capacité d'observation lucide de lui-même, et on peut tous faire ça. On peut tous chercher à comprendre pourquoi j'agis comme ça, ouais. Pourquoi j'ai telle émotion, pourquoi chaque fois qu'il se passe telle chose, ça me met en colère, pourquoi je suis dans la tristesse. Et c'est cette observation de sa vie affective grâce à la raison qui lui a permis justement de comprendre tous les mécanismes qui sont à l'œuvre dans notre psyché. Et donc, il a bien avant Freud, il a expliqué un tas de mécanismes comme la projection, comme l'imitation, etc.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il il s'est observé lui-même.
Alors, c'est paradoxal aussi parce que du côté négatif, chez Spinoza, on constate qu'il n'est pas très enclin à favoriser le désir charnel. Comment ça se fait qu'il n'est pas du tout sur la sexualité, sur la sensualité ?
C'est un sujet dont il parle peu. Il va pas parler de la sexualité. En plus, à son époque, c'est pas une chose dont on parle beaucoup.
Bah avec tout ce qu'il a dit avant, il pouvait y aller, hein.
Oui. Enfin, c'est vrai que là-dessus, il a une pudeur, mais globalement, on peut dire que sa philosophie, c'est une philosophie du corps.
Oui.
C'est-à-dire que le corps doit être joyeux. Oui. Le corps doit grandir dans la puissance vitale. Alors lui, il détaille plutôt le fait de bien manger. Il aimait boire de la bière, fumer sa pipe.
Oui, mais toujours avec parcimonie.
Mais
avec raison, justement.
Avec raison.
Raisonnablement.
Mais il est épicurien.
Oui.
C'est-à-dire le plaisir avec modération.
Oui. Il a aussi, et vous le soulignez dans votre livre Frédéric Lenoir, un comportement très machiste envers les femmes, Spinoza. La femme est inférieure à l'homme, comme chacun sait, c'est ce qu'il dit. La condition des femmes dérive de leur faiblesse naturelle. Du coup, dit-il, face à l'homme dominant, tout le monde est tranquille. C'est ce qui explique donc que les deux sexes peuvent vivre en paix. Il faut juste en prendre conscience. Prendre conscience que l'homme domine la femme et tout va bien.
Bon, il faut bien qu'il y ait une imperfection dans Spinoza, malheureusement.
Il n'est pas net, hein, votre
non,
Spinoza.
C'est-à-dire, sur ce point-là, effectivement, et c'est un des rares points où on peut le prendre en défaut d'être pris dans les préjugés de son temps, il n'a pas dépassé les préjugés de son temps sur la question féminine, et je pense que c'est pour des raisons affectives, puisque lui-même a été déçu par les femmes, du coup, il en a fait une généralité. Et il a été pris, d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'il s'est observé, il a très bien compris et maîtrisé ses affects, sauf celui-là. Il y a une blessure, et je trouve ça touchant. C'est pathétique.
Oh, touchant.
Non, si, ça veut dire qu'il n'est pas parfait.
Oui.
Il y a quelque chose qu'il n'a pas dépassé.
Ouais.
Mais maintenant, évidemment, sur les idées, sur les idées.
Quand on est fan, on accepte tout. Hein.
Non, on a tous des faiblesses. Et donc, c'est sa faiblesse. Et effectivement, je pense qu'il a pu fréquenter de femmes après et que du coup, il est resté sur les a priori qu'il avait à 20 ans. Mais je regrette beaucoup d'ailleurs que, vous savez, c'est la dernière page qu'il a écrite de son œuvre. Il est mort en écrivant ça. Je me suis dit, quel dommage qu'il ne soit pas mort 3 jours plus tôt. Parce que, du coup,
il nous aurait épargné
ce genre de phrases qui sont effectivement totalement critiquables.
Merci beaucoup, Frédéric Lenoir. Merci infiniment d'être venu dans la librairie francophone. Le miracle Spinoza est paru aux éditions Fayard. Vous restez avec nous, Frédéric.
Avec joie.
Merci. À suivre, le Guinéen Tierno Monenembo, Grand Prix de la francophonie de l'Académie française, dans votre librairie. Ce sera juste après le chanteur algérien Rachid Taha, qui reprend un tube des Clash.
رعبت في السنتر فيل كان دبنا ولا حنش استنى في رأس المال جماعه عم تبدل الريح
Rachid Taha, Rock El Casbah, tube des Clash de 1982, repris par Rachid Taha en 2004.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
RTBF La Première.
Ici Radio-Canada Première.
France Inter.
Thierno Monnenembo est dans la librairie à l'occasion de sa venue en France pour recevoir le Grand Prix de la francophonie décerné par l'Académie française. En Guinée, votre pays d'origine, Thierno, Nenembo signifie grand-mère en peul, je crois.
Pas vraiment. Nenembo, c'est moi qui ai inventé ce sobriquet. Ma grand-mère s'appelait Djami Diallo.
Oui.
Vous savez, mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans.
Oui.
Ma grand-mère ma paternelle m'a pris en charge. Et je l'ai appelé Nenembo.
Ah, ça vient de vous.
Voilà, c'est moi qui l'ai inventé. C'est oui. Mon premier personnage de roman, en quelque sorte. Néné, dans ma langue, un peu, ça veut dire maman.
D'accord.
Et un beau ne veut rien dire. J'ai l'impression que j'ai fait la différence. J'ai essayé de différencier ma mère réelle, biologique, ouais, ouais, de ma nouvelle mère. Nenembo, c'est presque freudien, ça veut dire peut-être nouvelle maman. Ou, en tout cas, tout le monde l'a appelé Nenembo dans le village.
Thierno Monnenembo, vous êtes né en 47 à Porédaka, en région Peul, une région Peul de Guinée. Vous fuyez la dictature d'Ahmed Sékou Touré en 69. Vous partez au Sénégal à pied. Et puis ce sera la France en 73. Vos livres évoquent évidemment l'exil, l'histoire coloniale, et vous critiquez fermement la politique en Afrique et notamment en Guinée. Vous n'avez aucune sympathie, dites-vous, aucune pitié pour les hommes politiques africains.
Aucune. Okay. Excusez-moi, je ne vais pas être insolent, mais on est dans une radio, mais franchement, ils sont, à mon avis, responsables de tous les grands malheurs du continent. Ils sont responsables de l'exode, des migrations honteuses qui se passent aujourd'hui. Aujourd'hui, les Africains sont redevenus esclaves en Libye. La faute à qui ? À nos dirigeants.
À nos dictateurs, vous avez dit.
À nos dictateurs qui ne s'occupent pas de la jeunesse. Il n'y a aucune politique pour la jeunesse. Il n'y a aucune politique économique rationnelle. La jeunesse africaine est abandonnée, en particulier en Guinée. Parce que la Guinée, à mon avis, c'est l'exemple même de l'échec africain. C'est une catastrophe.
Et Alpha Condé, en Guinée.
Alpha Condé en Guinée, c'est aussi... C'est
qui est au pouvoir depuis 2010.
Il est pire que tous les autres dirigeants guinéens.
Ah, vous dites que c'est le pire de tous. Et pourtant, Sékou Touré a été à l'origine de beaucoup de déplacés.
Il fut condamné à mort par Sékou Touré lui-même. Mais, sachant tout cela, lui, il aurait pu inventer autre chose. Mais non, il ressemble énormément à ses prédécesseurs.
Ouais. Alors, depuis le roi de Kaël, prix Renaudot en 2008, le terroriste noir en 2012, qui a reçu lui aussi plusieurs prix, le grand public vous a découvert, Thierno Monnenembo, et a pu déceler en vous une grande inquiétude, une grande réflexion sur ces enseignements tirés de l'histoire. Finalement, vous constatez, et on le lit dans vos livres, on n'apprend pas grand-chose, on oublie beaucoup de choses, en tout cas, de l'histoire.
En train d'oublier, puisque précisément l'histoire est dure à porter. L'histoire moderne est une tragédie. Il faut oublier sans oublier. En quelque sorte, il faut supporter. On oublie un peu pour supporter, mais ne pas totalement oublier pour reconstruire la mémoire. Parce qu'il faut bien transmettre quelque chose à ceux qui sont en train de naître. Il faut bien que les jeunes qui sont en train de venir sur Terre sachent ce qui s'est passé avant eux pour quitter la leçon justement de l'histoire. Mmh. L'histoire est une leçon. Et cette leçon n'a pas été tirée en Afrique. La mémoire était trafiquée. On ne la transmet pas aux nouvelles générations. Les nouveaux Africains ne savent même pas qui ils sont. Ils ne savent même pas ce que c'est que les indépendances africaines. Tout est utilisé à des fins politiques et idéologiques.
Et rien n'est retenu alors ?
Rien n'est retenu, puisqu'on n'enseigne pas chez nous. Ouais. On a perdu toutes les valeurs traditionnelles, on n'a rien gagné des valeurs modernes.
Et alors c'est pour ça que dans vos livres, vous rappelez l'histoire. Dans Le Terroriste Noir, vous rendiez hommage aux Africains envoyés au front sous le drapeau français lors de la Seconde Guerre mondiale. Et notamment Adiba, un héros de la résistance tué par les Allemands, un Guinéen. Et il faut rendre justice, c'est un peu ça votre propos, c'est ça aussi votre principe littéraire ?
Oui, mais il faut rendre justice à Adiba, je pense que c'est en train de se faire, mais Adiba n'est pas connu en Guinée. Adiba est plutôt connu dans les Vosges. Et puis son itinéraire n'est pas classique. Ce n'est pas un tireur sénégalais, dans le sens vrai du terme. Il est venu en France à l'âge de 13 ans, adopté par une famille française.
C'est ça, ouais.
Lors du début de la guerre, Seconde Guerre mondiale, il s'engage volontairement au régiment, au 12, je sais pas quoi, du
12e régiment des tireurs sénégalais.
Et là, c'est la défaite. Et après, il rentre dans la résistance. Il résiste, il sabote des trains allemands, etc. Et il est condamné à mort en 1943 et exécuté par les Allemands.
Votre dernier roman, Bled, aborde les liens entre la France et l'Algérie. Alors là aussi, il y a des choses, parce que vous dites qu'il y a une relation d'amour et de haine entre la France et l'Algérie. Tout cela vous interroge. Ce qui vous interroge aussi, c'est, vous le déclariez d'ailleurs dans Jeune Afrique en 2012, c'est que l'État français n'a jamais vraiment reconnu ses héros noirs pour la Seconde Guerre mondiale. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des commémorations, évidemment, il n'y a pas de distinction, mais on les reconnaît pas en tant que tels. Et tout ce mélange-là, ce mélange historique, ça fait le sel de votre littérature, Tierno Monenembo.
Oui, parce que c'est un problème assez confus, c'est-à-dire la question coloniale est confuse, elle a été abordée uniquement sous des angles idéologiques. C'est la littérature qui tente d'éclairer les choses. C'est un début. On a beaucoup de choses à se dire, parce que la colonisation a cassé beaucoup de choses, mais elle en a construit beaucoup d'autres. Elle a construit le lien entre la France et ses anciennes colonies, en particulier avec l'Algérie.
En particulier, parce, oui. Vous pensez plus avec l'Algérie qu'avec certains pays d'Afrique subsaharienne?
Le pays le plus proche de la France, c'est l'Algérie. Même plus proche de la France que le Québec. J'ai vu qu'en Algérie, 4 ans...
Ouais, c'est pas la même chose, c'est pas la même histoire.
Sais, c'est terrible. La France n'a pas colonisé le Québec. Il y a des histoires, il y a des différences énormes, religieuses, etc., même culturelles, mais les liens sont trop forts. Mais malheureusement, le discours évoquant cela a tout été malsain des deux côtés.
Mais alors, quel regard portez-vous sur la France, Tierno? Parce que quand vous parlez du colonisateur dans vos livres, vous ne jugez pas. Vous prenez sa place quelque part. Mais vous ne vous gênez pas non plus pour fustiger la Guinée, on l'a entendu tout à l'heure. Pour fustiger la France aussi, vous dites que c'est une nation tortionnaire qui a vite oublié les choses.
Mais bien sûr, mon regard sur la France ne peut pas être objectif. Parce que précisément, j'ai été français très tôt. Je suis né sous la colonisation française, j'ai appris la langue française à l'école, en même temps que les petits français, en gardant mon accent, bien évidemment. Je suis partie prenante de l'histoire de France, tout en n'étant pas né français. Mmh. Donc c'est très compliqué, c'est très complexe.
Complexité même lors de l'apprentissage de la langue. Absolument. Car à l'école, on vous obligeait à parler français.
Bien sûr.
Et dans votre village, on vous obligeait à parler peul. Et on vous tapait à chaque fois.
De deux côtés. Donc,
vous aviez une punition.
À la fin, on est devenu presque muet.
Ouais, c'est à l'âge de 12 ans, vous avez décidé d'être muet, vous. C'est vrai, en plus, cette histoire.
Oui, on a été.
Vous n'avez plus parlé.
On ne parlait plus parce que, des deux côtés, la langue était interdite. Et ça, c'est parce que les pouvoirs, c'est des pouvoirs qui décrètent même la langue.
Justement, Tierno Monenembo, que faites-vous des honneurs? Être distingué comme ça par l'Académie française, recevoir le Grand Prix de la francophonie et une somme d'argent importante au passage, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous en faites de cet honneur-là, vous?
Alors, je ne sais pas trop quoi faire des honneurs, je n'en ai pas souvent reçu, mais c'est toujours mieux que le déshonneur. Ce qui est dangereux, ce qui est absolument insupportable, c'est le déshonneur. Mieux vaut encore l'honneur, malgré les flonflons et les oripeaux, que les déshonneurs.
Et les sirènes.
Et les sirènes. Bon, heureusement, à l'Académie française, il n'y aura pas de sirènes, je pense bien.
Merci beaucoup, Tierno Monenembo. Merci infiniment d'être venu dans la librairie francophone. Vos romans sont publiés aux éditions du Seuil. Le dernier en date, Bled, nous emmène en Algérie, où vous avez enseigné en tant que coopérant il y a quelques années de cela. Et Le terroriste noir est paru en poche chez Point.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Bonjour Zoé Derlin.
Bonjour Emmanuel.
Soyez la bienvenue dans la librairie francophone. Vous êtes finaliste pour le prix Rossel, l'équivalent du prix Goncourt en Belgique. Le goût de la limace, c'est votre recueil de nouvelles. 10 histoires très sombres mais très touchantes. Angoisse, frustration, détresse sociale, immoralité. Ça se passe plutôt mal pour vos couples et vos familles. Pourquoi tant de souffrance, Zoé?
Oui, c'est amusant parce que moi, tout le monde me renvoie un petit peu une image sombre. Et tu parles beaucoup de la mort et chez toi. Ouais. Et puis moi, j'ai pas du tout eu l'impression d'écrire sur ça. Mais je pense que je parle de la vie et que la vie, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est sa brutalité, sa fragilité. Et donc c'est brutal, mais c'est pas nécessairement sombre pour moi. Voilà.
D'accord.
Je pense que c'est les fragilités, la beauté de la vie.
Mmh. Il y a une nouvelle particulièrement bien écrite d'ailleurs, bien conçue, c'est Terrain vague, qui décrit la solitude d'un enfant face à une mère célibataire que l'on suppose dépressive. Vous montrez très bien à quel point il est difficile pour une femme d'élever un enfant seul. Et dans ces cas-là, la victime, c'est toujours l'enfant.
Oui, moi ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est qu'ils se ratent tout le temps. J'ai l'impression qu'ils se passent l'un à côté de l'autre, sans arrêt. Oui, et c'était vraiment le point de vue de l'enfant qui m'intéressait, le point de vue, il est dans son monde aussi, oui, complètement, ouais. Et donc ce monde magique le protège un petit peu, c'est-à-dire qu'il se réfugie là-dedans.
Dans l'imaginaire.
Et c'est là-dedans qu'il se, qu'il se réfugie, ça le protège.
Oui, une forme d'irrationnel aussi, c'est un gamin qui tente de contrôler les situations, mais ça se passe pas comme ça, ça se passe pas avec l'imaginaire, c'est plus compliqué que ça.
Oui, c'est plus compliqué, il essaye de contrôler les battements de son cœur, il essaye de, et puis voilà, finalement, quand ça finit vraiment mal, oui, il va se réfugier dans des bonbons ou des... Enfin voilà, je vais peut-être pas raconter la fin, mais oui, en tout cas, l'enfance, c'est un moment qui me plaît beaucoup. Je pense qu'il est présent dans plusieurs nouvelles.
On va écouter la BO du roman, Zoé Derlin. Vous avez choisi la musique qui pourrait habiller votre livre, comme dans un film. C'est Alain Bachung que vous avez choisi avec Madame Rêve. On va écouter un extrait avec la lecture aussi d'un extrait de votre recueil de nouvelles et de cette nouvelle Terrain Vague.
Madame Rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle au ciel. Au ciel.
Je ne sais pas où je suis. Je suis allongé sur un divan et il y a une grosse couverture à carreaux qui me pique les mollets. Brutus est couché près de moi, sa tête posée sur ma main. La pièce est petite et sombre. Il y a des boîtes en carton, des piles de magazines et des voix de l'autre côté, quelque part. Des voix que je connais. La libraire, le patron du café, ils parlent d'elle. Ils disent qu'elle a recommencé. Je m'assois et je frotte mes mains sur mes oreilles. J'aime bien les bruits que ça fait, comme si mes oreilles étaient en carton ou qu'une grosse machine passait près de moi. Ou comme les bottes dans la neige. Je ne sais pas pourquoi, parfois la neige me fait un peu peur. Tous les sons deviennent différents quand il neige, plus doux, plus étouffés. Et parfois j'ai peur que ma voix ne devienne aussi comme ça, douce et pâteuse, à cause de la neige, et que plus personne ne m'entende.
Madame Rêve, libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs.
Voilà Zoé Derlin, un texte très touchant avec ce personnage très mignon qu'on a envie de prendre dans ses bras quasiment.
Ah oui, non. Tant mieux, moi j'avais envie de le prendre dans mes bras aussi quand j'écrivais.
C'est
j'étais
vrai.
Oui, voilà, bah, j'ai beaucoup d'empathie pour mes personnages, même ceux qui sont un peu plus durs, qui sont qui imaginent par exemple qu'ils aimeraient bien que leurs parents soient morts ou des choses comme ça, même ceux-là, j'ai de l'empathie pour eux. Et donc ce petit garçon, oui, et je pense même que je l'ai écrit et que c'est un petit garçon parce que j'aurais eu trop, peut-être encore trop, si c'était une petite fille. Et donc c'était une manière de mettre une... J'avais commencé avec une fille, puis j'ai mis une distance par rapport au personnage parce que je me suis dit ça va devenir mou et voilà.
Bon, il y a trois libraires qui ont lu votre recueil de nouvelles, Zoé Derlin. Au Canada, c'est notre libraire Marie-Noël Blé qui va s'en charger. Qu'avez-vous pensé de ce livre, Marie-Noël ?
Oh, ben moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Justement, j'ai senti dans l'écriture une grande tendresse et une énorme bienveillance. Vous observez avec beaucoup de finesse les soubresauts du monde et j'ai été très séduite par votre écriture dépouillée. La tension narrative est habile et juste bien dosée, sans jamais aller vers des chutes trop appuyées.
Ouais, c'est vrai. Dominique Bressou est en Suisse. Êtes-vous d'accord, Dominique ?
À moitié. Moi, j'en ai presque voulu à l'auteur à la fin du livre parce que je me sentais toute triste et un peu maussade. En fait, j'avais l'impression d'être vraiment engluée dans les nouvelles. Et en fait, de fait, la force de suggestion de l'écriture est extrêmement grande et j'ai à chaque nouvelle été prise complètement au dépourvu par l'intensité dramatique de la chute. Alors, c'est vrai, ces histoires sont tristes, mais c'est magnifiquement construit et c'est très intense.
Eh oui, très, très intense. Annick Dor, en Belgique, vous êtes d'accord ?
Tout à fait. Moi, j'ai aussi été bluffée par toute cette maîtrise stylistique de l'ensemble du recueil. Je trouve que c'est très bien écrit et puis c'est très bien construit. Et ce qui m'a aussi frappée, c'est que chaque début de nouvelle ménage une sorte de suspense. Vous nous maintenez dans une sorte d'attente et de curiosité qui donne vraiment envie de continuer la lecture et qui donne à voir un univers à chaque fois très différent. Alors, si les nouvelles ne sont pas très très longues, elles ont vraiment une belle puissance narrative. Donc voilà, vivement un autre recueil ou pourquoi pas un futur roman.
Futur roman ou pas, Zoé ?
Pour le moment, le texte sur lequel je travaille est plus long. En fait, c'était une des nouvelles qui aurait peut-être pu figurer dans le recueil. Et puis le personnage, là, vraiment, je ne pouvais pas la lâcher.
Donc vous avez développé.
Donc voilà, alors ce sera peut-être, je ne sais pas ce qu'on appelle une novella aux États-Unis, oui, quelque chose au milieu.
Bon, vous avez séduit aussi nos libraires, félicitations.
Oui, super, c'est très agréable.
Il y a beaucoup question des femmes dans ce recueil de nouvelles. Les femmes sont au centre de vos nouvelles. Elles ne sont pas toujours très courageuses, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est le courage pour vous, Zoé Derlin ? Par quoi il est incarné, le courage ?
Vous les trouvez pas courageuses ?
Non, elles abandonnent. Il y a une
oui, elles abandonnent
une
peut-être.
Mère,
oui,
une mère de substitution qui quitte finalement le gamin qui a perdu sa mère. Enfin voilà.
Oui, alors je ne sais pas si c'est un manque de courage ou si c'est une impossibilité pour celle que vous citez à rentrer dans une relation affective, que ce soit avec le gamin, que ce soit avec le père du gamin. En fait, je ne me suis pas posé la question de savoir s'ils étaient courageux ou pas courageux. J'ai l'impression qu'ils font avec ce qu'ils peuvent. Et voilà. Et c'est effectivement des gens qui, clairement, il y a eu des trous dans leur enfance à certains moments. Et donc, voilà, ils font comme ils peuvent.
La sexualité qui est très présente aussi, Zoé Derlin, dans la nouvelle qui donne le titre à votre recueil, Le goût de la limace. Il est question d'une sexualité qui n'est ni choisie ni forcée. Ça vous fait rire, oui, parce que c'est vraiment une limace. Hein. Enfin, bon, après, on peut imaginer
limace.
Plein de choses. Il y a une limace et puis d'autres choses. Mais c'est une sexualité qui est ni choisie ni forcée, une sexualité qui se présente.
Oui, c'est vraiment ça.
Ah
oui. Voilà, à un moment donné.
Vous croyez en la sexualité qui se présente, vous ?
Je pense que parfois, oui. Voilà. On peut développer aussi,
mais développons.
Oui, je pense que dans ce cas-là, c'est une adolescente, enfin une très jeune adolescente, et puis voilà, c'est quelque chose qui se présente à elle. C'est une expérience. Elle n'est pas vraiment partante, mais elle ne la refuse pas non plus.
Ouais.
Et puis finalement, ça se passe, voilà. Et c'est vrai que la sexualité, comme je pense dans mes nouvelles, il y a énormément de sensualité en fait. Voilà, c'est tout ce qui est de l'ordre du sensible qui m'intéresse. Donc la sexualité en fait partie. Aussi. Oui.
Et on ose dire les choses, dans Rumeur, une autre nouvelle, il y a cette femme qui perd son mari d'une maladie. Et elle va confier lors de son enterrement, c'est complètement immoral, qu'il y a des limites à l'amour parce qu'elle a failli renoncer à l'accompagner dans sa maladie. Ce sont des nouvelles immorales en fait.
Ah peut-être, moi je ne les trouve pas immorales.
Elles ne sont pas si glauques que ça, elles sont juste immorales.
Elles sont, pour moi, elles sont pas dans le semblant social. Elles sont dans ce qu'on pense à l'intérieur, mais je crois qu'on le pense un peu tous à certains moments.
Frédéric Lenoir veut réagir.
Elles sont peut-être pas immorales, mais amorales, c'est-à-dire plutôt au-delà du bien et du mal.
Oui, je pense qu'elles sont vraiment dans
la
ce qu'on dit.
La voix du philosophe.
Pas. Voilà.
Parfait, c'est exactement ça.
Ce que dit Spinoza. Ils font d'une morale au-delà du bien et du mal.
C'est ça.
Et Nietzsche l'a complètement plagié sur cette question.
Merci beaucoup, Zoé Derlin.
Merci
d'être venu ici. Votre recueil de nouvelles, Le goût de la limace, est paru aux éditions Quadrature en lice pour le prix Russell. On vous souhaite donc bonne chance pour ce Russell 2017 qui sera décerné le 7 décembre.
Merci.
On croise les doigts. À bientôt, Zoé.
À bientôt, Emmanuel.
À suivre, la chronique des libraires Tous Ensemble et un reportage à Montréal. Pour les 75 ans de Michel Tremblay, on poursuit en musique avec le tout nouveau titre de Charlotte Gainsbourg. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Yeah.
tout nouveau titre de Charlotte Gainsbourg, Wing a Wing a Wasis, sur votre radio francophone, sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone. Emmanuel Quéral.
La chronique des libraires dans cette plus grande librairie du monde. Tous ensemble pour les coups de gueule et les coups de cœur. On commence par qui? Tiens, Mathieu Colombe, tiens, désignez quelqu'un.
Qu'est-ce que je peux désigner? On va désigner la Belgique.
La Belgique. Allons-y avec Annick Dor et un coup de cœur, justement. Annick, commençons en douceur.
Exactement, pour un roman belge de Valentine Delecourt et qui s'intitule Une maison bruxelloise. Alors, c'est un roman très intriguant qui nous plonge dans une maison de maître bruxelloise où est engagée une femme de ménage et où les choses ont s'avéré tout à fait bizarres. Donc, tout le temps de la lecture, on a le sentiment d'une inquiétante étrangeté. On a presque l'impression que la maison a une vie propre. Donc, j'en dis pas plus pour ne pas dévoiler l'intrigue, mais pour ma part, ça a été vraiment une jolie découverte que ce court roman extrêmement singulier.
Une maison bruxelloise aux éditions Mols, c'est ça?
Mols.
Merci Annick, on part en France. Allez, Mathieu Colombe, un coup de gueule.
Oui, coup de gueule de saison. Ça fait quelques années maintenant qu'il y a une nouvelle mode chez les éditeurs. Ils nous envoient, en quantité assez importante, une catégorie de livres un petit peu étranges, en fait, qu'on range dans les livres de cuisine, qui sont des coffrets.
Ah oui.
Avec des mauvais ustensiles de cuisine, des trucs qui marchent pas très bien, mais qu'on met dans un coin puis qu'on n'utilise jamais, genre des jarres, des couteaux qui coupent pas, ce genre de choses. Et le truc qui est assez intéressant, c'est que outre le fait que bon, c'est pas des bouquins, il y a des bouquins à côté. À mon humble avis, ces livres-là, alors ils sont dans, on peut les classer en deux catégories. Soit c'est des anciens titres qui sont recyclés parce qu'ils marchaient plus.
Ah oui. Et on ajoute un objet.
On ajoute un objet pour gonfler les ventes. Soit c'est des trucs qui seraient jamais sortis tout seuls, parce que c'est pas possible. C'est pas possible de sortir. Ouais.
Ça énerve les libraires, hein, parce que Grégoire Courtois nous parlait la semaine dernière, je crois, d'un lance croquettes.
C'est ça.
Pour les chats et les chiens, on lançait des croquettes avec un pistolet.
Oui,
c'est rigolo.
J'ai vu ça, oui, moi, non, mais pour le coup, on effectivement, peut tuer ça des nous chiens, énerve, comme quoi, ça. Parce que, mais après tout, on vend des livres, hein, c'est un peu notre truc. J'avoue qu'être une mauvaise mercerie, bon. Ça ne mangeait pas.
D'accord, donc vous en vendez très peu, du coup.
On essaye.
On part au Canada avec un autre coup de gueule, Marie-Noël Blé. Ce genre de livre vous énerve aussi?
Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, j'enchaîne avec quelque chose qui m'énerve aussi,
oui.
Et qui est une autre tendance, c'est la publication de livres de YouTubeurs. On en a beaucoup ici, et puis je trouve que déjà qu'il y a des hordes de YouTubeurs qui s'improvisent chroniqueurs ou humoristes sur Internet,
ouais.
Et que certains cartonnent avec du contenu dont on peut vraiment discuter la pertinence ou l'intérêt. Il me semble que le monde de l'édition aurait pu se montrer un petit peu plus réfractaire à leur donner une tribune de plus. Pour moi, c'est vraiment prendre les lecteurs pour des cornichons. Et je me permets de mentionner un titre en particulier,
oui.
Le livre de Pierre-Luc Cloutier, qui est un YouTuber québécois, dont le titre « Tout va bien été ». On peut comprendre la dérision dans la démarche, mais on peut aussi décrier la navrante facilité de telles publications.
Eh oui, les pseudo-stars du web qui se répandent partout, et notamment dans les librairies, avec des livres complètement nuls qu'il ne faut ni acheter, ni lire, ni regarder. Merci beaucoup Marie-Noël. On part en Suisse avec vous, Dominique Bressou. Un coup de cœur, Dominique.
Oui, un coup de cœur, mais alors pour un vrai livre, pour un roman documentaire de Éric Bulliard. Il nous parle du départ définitif en 1930 de tous les habitants de Saint-Kilda, une petite île qui était située au-dessus des Hébrides. C'était une population qui vivait en autarcie, dans des conditions extrêmement difficiles, mais où la solidarité n'était pas un vain mot. C'est très émouvant, c'est admirablement documenté. L'adieu à Saint-Kilda de Éric Bulliard, à l'édition de l'Eb, ça fait voyager dans le temps et dans l'espace.
Et dans l'espace et au bout du monde, vous partirez au bout du monde avec ce roman.
Exactement.
Merci Dominique. Il y a deux semaines, nous étions à Montréal pour une émission spéciale au Salon du Livre que vous pouvez d'ailleurs écouter en ligne sur notre site internet. Nous avions évoqué les 75 ans de Michel Tremblay, nommé ténor du Salon cette année. Alors nous sommes allés sur son stand, piocher quelques indiscrétions lors de ses discussions avec ses lecteurs. Avant d'entendre ce son du Canada, écoutons la France avec notre libraire Mathieu Colombe qui est toujours là. Michel Tremblay est-il un auteur qui compte en France ?
Je pense que oui, en tous les cas, c'est une voix qu'on devrait entendre beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante. Parce que Déjà, c'est une langue, cet homme. Lire Michel Tremblay, c'est lire un morceau du Québec. Fatalement, il y a cette langue qui va nous frapper. Et j'aime son côté passeur d'histoire à travers quelque chose d'intimiste. Je trouve que globalement, c'est ce qui fait sa force, en fait. Parler de choses fortes, de choses dures parfois, mais sans se départir de son grand humour, de son affection et surtout de son amour pour les autres.
Eh oui, l'amour pour les autres, vous allez l'entendre parler aux autres, justement. Voici les coulisses d'une séance de signature de Michel Tremblay dans l'intimité avec ses lecteurs. C'est très rare et vous n'entendrez cela que dans la librairie francophone.
Quand j'étais enfant, au bas de la fontaine, il y avait des écureuils.
Il est complètement là. J'ai fait ça avec mon balai, hein?
Vous êtes sûr que c'est un écureuil?
Oui. Bon, ben, à la prochaine.
Merci, au revoir.
Bonjour Michel Tremblay.
Bonjour, ça allez bien?
Ça va et vous?
Oui, très bien. Fatigué, mais bien.
En pleine signature au Salon du Livre de Montréal, où vous avez été nommé le ténor du Salon du Livre de Montréal. Il y a mais un ça, trophée c'est... là, juste ensuite, là, sur votre table.
C'est un prix d'assiduité plus qu'autre chose, parce que j'ai fait, imaginez-vous, les 40 Salons du Livre. Le Salon du Livre existe depuis 39 ans. Alors, on m'a fait ce cadeau de me nommer ténor du Salon du Livre. Alors,
c'est un beau trophée, en tout cas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dessus?
Il est pesant, c'est du vert.
C'est en vert. Il y a un stylo avec un cœur à côté. C'est tout mignon, regardez. C'est vrai que vous signez tout le temps.
Ouais.
Et à chaque fois qu'on est venu ici au Salon du Livre de Montréal, vous étiez tout le temps à votre table, assidu, calme, un bon élève.
Très zen.
Très zen.
Mais je trouve ça formidable. J'ai fait les 40 parce que être submergé d'amour pendant 5 jours par année, et juste avant de partir pour Key West, parce que j'habite la Floride l'hiver, j'attends la fin du Salon du Livre pour partir. Alors, une semaine comme ça, avant de partir, d'être submergé d'amour, de se faire dire qu'on est bon et qu'on écrit bien et qu'on a changé des vies, oui, c'est formidable. Alors, je repars à Key West plein d'énergie.
Ça vous plaît, les histoires que vous racontent les lecteurs? Là, il y avait une histoire d'écureuil, j'ai entendu la dame.
Oui,
vous parlez d'un écureuil.
Toutes sortes de choses, puis comme si je faisais partie de la famille. En fait.
Oui, c'est ça. Ouais. Bonjour, madame.
Bonjour.
À quel nom?
Marie-Josée.
Vous avez lu toute l'œuvre de Michel Tremblay?
Presque.
Vous êtes intimidée?
Oui, quand même.
Il ne faut pas.
Il ne faut pas, il faut lui raconter des histoires. Il adore quand on lui raconte des histoires.
À quel nom? Brigitte, c'est ma mère. Elle habite en France.
Ah bon?
On est belge, mais elle habite en France. Et donc, à chaque fois, j'achète les livres ici.
Et vous venez de Belgique?
Oui, moi, je suis née en Belgique, mais j'habitais en France, en Allemagne et tout. Et quand j'ai déménagé, c'est il y a 10 ans, ouais, j'ai découvert Montréal par Michel Tremblay, quoi. Je trouve que c'est une bonne manière. La littérature ici à Montréal pour découvrir la ville, c'est super, quoi.
Oui, il y a beaucoup de Québécois qui, quand ils vont à Paris la première fois, s'ils connaissent à Paris, c'est à travers les romans qu'ils ont lus.
Moi, c'est souvent comme ça que je découvre les villes, étant donné que j'ai beaucoup bougé, là. Du coup, chaque année, je vais au Salon du Livre.
Et chaque année, vous voyez Michel Tremblay?
Oui, parce qu'il y en a presque un tous les ans, c'est ça. Ouais.
Oui.
Et donc, à chaque fois, ma mère me fait « Bon, tu y vas ?» De toute façon, généralement, elle vient ici à Noël, là. Un de mes cadeaux de Noël, voilà.
Alors, le dernier, Michel Tremblay, le peintre d'aquarelle.
Exactement.
Vous lui direz d'écouter la librairie francophone, puisqu'en Belgique, on est diffusé.
Oui, je connais, librairie francophone le soir, à Radio-Canada.
Voilà.
J'écoute, parce que du coup, vous parlez de la Belgique de temps en temps. Donc, du coup, c'est la seule manière, je crois, que je suis un petit peu ce qui s'y passe. Là, j'ai envie de chiqueter quand j'avais 10 ans, donc...
Il y a un peu de Belgique dans l'émission, ça vous permet d'avoir un lien.
Ouais, voilà. Exactement.
Et Michel Tremblay, évidemment, régulièrement.
En tout cas, merci beaucoup, hein.
Incroyable. Du monde entier, on vous connaît dans le monde entier. C'est vrai, elle a raison, vous avez voulu faire découvrir Montréal grâce à vos livres. C'était un objectif pour vous, ça, Michel?
Ah non, pas du tout.
Jamais?
Non, j'avais...
C'était un décor seulement?
Je voulais juste... j'ai déjà dit il y a longtemps que je voulais être le chantre d'une famille dans un quartier d'une ville, de décrire une société à travers une famille, mais pas pour faire connaître Montréal à l'étranger.
Avec les chroniques du plateau Mont-Royal, le livre qui est juste derrière, là, vous avez un thésaurus, comme on dit, c'est-à-dire l'intégrale, hein, qui est publié par Leméac et Actes Sud. Quand vous voyez cette somme, comme ça, avec plus de 1000 pages sur un papier Bible...
Il y en a sorti cette année que 1400 pages.
1400 pages.
Le Désespoir des Desrosiers.
Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça, votre œuvre, là, comme ça?
Ça m'émeut, là, quand je reçois le livre. D'abord, je n'en reviens pas d'avoir écrit tout ça.
Oui, c'est ça.
Mais c'est vrai, parce qu'on écrit, les choses s'ajoutent, mais on ne sait pas la somme de ce qu'on a fait. Et quand un livre comme celui-là, de 1200 ou de 1400 pages, est publié, on se dit « Ah, mon Dieu, mais j'ai tout fait ça ».
Bonsoir, Denise Yarmando.
Vous êtes d'origine mexicaine ?
Oui.
Et vous avez connu Michel Tremblay comment ?
En vivant au Québec.
Ça fait 50 ans qu'on le connaît, mais moi, ça fait 42 ans que j'habite ici, alors je vous connais depuis.
Qui ne connaît pas Michel Tremblay, hein?
Bravo.
Merci.
Votre œuvre.
Appelez-moi Lise. L-I-S-E. Oui.
C'est la première fois que vous avez une signature de Michel Tremblay?
Oui, c'est la première. Et vraiment, j'espère que ce ne sera pas la dernière.
Moi aussi.
Autant pour vous que pour moi. Merci infiniment. C'est un honneur pour moi de vous avoir vu, rencontré, entendu votre voix.
Bon, voilà, on a fait cette petite escapade avec Michel Tremblay dans la librairie francophone. Merci, monsieur le ténor.
Mais ça me fait plaisir.
Mais écoutez, on est ravis. Bon anniversaire encore une fois, Michel.
Ouais, merci beaucoup.
Michel Tremblay, formidable Michel Tremblay. On va rester au Québec avec Marie-Noël Blé au Canada qui a le mot de la fin sur Michel Tremblay.
Oui, quel homme. Mais pour moi, il a su vraiment créer une mythologie montréalaise qui arrive à expliquer le reste du monde. Il fait partie de cette espèce rare d'écrivains qui nomme sans fioriture les petits et grands drames humains. Contrairement à ce qu'on pourrait penser à cause de l'usage du joual, comme disait Mathieu, c'est peut-être notre auteur le plus universel. Pour moi, ces textes qui sont les plus précieux, mais qui ne sont pas nécessairement ses plus connus, je dirais au théâtre, « À toi pour toujours, ta Marie-Lou », puis son récit initiatique magnifique sur la littérature, « Un ange cornu avec des ailes de tôle », et son diptyque d'amour, « Le cœur découvert et le cœur éclaté ».
Il faut lire, effectivement, Michel Tremblay. Merci pour ces conseils, Marie-Noël. Frédéric Lenoir, vous allez au Québec bientôt. Vous connaissez Michel Tremblay ?
Je ne connaissais pas Michel Tremblay.
Il va falloir le lire avant d'y aller, ou dans l'avion.
Absolument, l'avion du retour.
Oui, c'est ça. Voilà, bon voyage à vous, en tout cas. Merci, Frédéric.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le groupe Nel avec un extrait de « Mes forêts ».
À l'heure où se dispersent les premiers brouillards, à l'heure du chant du coq matinal, rien ne pourra égaler l'émail de mes forêts, rien ne pourra entamer leur beauté. À l'heure où se disperse cet appétit des plaines, à l'heure où renaissent tant de pensées si claires, rien ne pourra égaler l'émail de mes forêts, rien ne pourra entamer leur beauté. Rien ne pourra égaler l'émail de mes forêts, rien ne pourra entamer leur charme gai. Là-bas dans mes forêts, là-bas dans mes forêts, là-bas dans mes forêts, là où j'oublierai le beau, le vrai.
Nel, mes forêts, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Henri-Marc Mutel avec Nicolas Delmas et Jean-Philippe Jeanne. Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Vera Louderide et Christophe Magère en France. Martine Béguin-Felé et Annick Chouin en Suisse. René Mikils avec Valérie Leput en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. Merci beaucoup Frédéric Lenoir. À très bientôt.
Merci.
Zoé Derlin, bonne chance à vous.
Merci Manuel.
À bientôt. La semaine prochaine, Véronique Tadjo, Foi de la Rouille et une grosse surprise. Bonne semaine, bon week-end, salut.